Vous êtes sur France Culture, le journal de 6h30 par Clara Lecoq-Réal. Bonjour.
Bonjour Toufik, bonjour à tous. La question de l'indépendance de la Catalogne s'invite dans le débat des législatives en Espagne. Ces élections auront lieu dimanche. Nous irons à Barcelone dans un instant. Nous reviendrons ensuite sur les propos d'Emmanuel Macron dans un hebdomadaire britannique. Il estime que l'OTAN est en état de mort cérébrale. Un mouvement d'humeur, selon certains spécialistes. Et puis, Europa City est abandonné. L'immense centre commercial prévu au nord de Paris ne se fera pas, voilà ce que je dis, le chef de l'État. Il promet un nouveau projet, nous y reviendrons. Les Espagnols sont donc appelés aux urnes ce dimanche, en pleine période d'instabilité politique. Ce sera leur quatrième élection législative en moins de 4 ans. Et ces dernières semaines, la Catalogne s'est imposée comme l'un des sujets majeurs de la campagne. Depuis en fait que le 14 octobre dernier, la Cour suprême espagnole a condamné 9 leaders indépendantistes à de lourdes peines de prison, condamnés pour avoir participé à l'organisation d'un référendum illégal en Catalogne en 2017. Ce jugement a entraîné une vague de protestations parfois violentes et donc ce climat de tension qui pèse sur les législatives. À Barcelone, depuis 10 jours, des indépendantistes campent jour et nuit sur une place du centre-ville. Isabelle Labéry les a rencontrés.
Si Joël, l'étudiant, dort sous une tente depuis 10 jours, c'est parce qu'il est en colère contre le gouvernement espagnol et qu'il veut le faire savoir.
Après les condamnations, c'est vrai, les gens sont devenus un peu chauds. Mais s'il y a de la violence, c'est celle de la police qui nous donne des coups de matraque sur le crâne et dans les testicules. La police qui fonce à toute vitesse sur les manifestants avec ses fourgonnettes. Si on a fait des barricades, c'était pour se défendre.
La tension est telle que pour le scrutin de dimanche, Louis s'imaginait même un autre scénario.
Moi, j'aurais préféré qu'on boycotte, que personne ne se présente et que personne n'aille voter pour montrer à quel point les Catalans rejettent l'État espagnol et l'ordre établi.
Les partis indépendantistes espèrent sortir renforcés du scrutin, même s'ils se font peu d'illusions sur un fléchissement de Madrid. Benet Saliesas est l'un de leurs avocats.
Les Catalans ont un poids politique, démographique, économique. Tant qu'on n'abordera pas clairement la question catalane, ce sera difficile pour l'État espagnol de fonctionner normalement. Je pense qu'on entre dans une phase de blocage relativement longue.
Signe que la reprise du dialogue n'est pas pour demain, Pedro Sanchez, le chef du gouvernement socialiste donné vainqueur, vient de proposer de modifier le code pénal pour interdire, je cite, une bonne fois pour toutes, les référendums illégaux en Catalogne.
Isabelle Labéry, qui est notre envoyée spéciale à Barcelone à 2 jours des législatives. La Cour suprême du Brésil a rendu hier soir un arrêt qui pourrait aboutir à la libération de milliers de prisonniers dans le pays, y compris la libération de l'ancien président Lula, dont les avocats vont demander une libération immédiate aujourd'hui. Les magistrats de la Cour suprême brésilienne ont en fait mis fin à une jurisprudence selon laquelle une personne peut être emprisonnée avant l'épuisement de tous ses recours. Ça ne doit plus être le cas, voilà ce que dit la Cour suprême. Lula, je vous le rappelle, purge une peine de 8 ans et 10 mois de réclusion pour corruption. La Chine et les États-Unis se sont mis d'accord hier pour lever les droits de douane supplémentaires qu'ils s'étaient imposés ces derniers mois. Une levée des surtaxes par étapes, ce qui est censé ensuite mettre fin à la guerre commerciale entre Washington et Pékin. Sur le volet diplomatique encore, les propos d'Emmanuel Macron inquiètent les États-Unis et l'Allemagne notamment. Dans l'hebdomadaire britannique The Economist, le président français estime que l'OTAN est en état de mort cérébrale. Une sortie qui ressemble beaucoup à un mouvement d'humeur envers la Maison Blanche, selon Jean-Dominique Merchet. Il est journaliste à l'Opinion, spécialiste des questions de défense et de géopolitique.
Emmanuel Macron fait cette déclaration sur l'OTAN en mort cérébrale parce qu'il est très fâché par ce qui s'est passé récemment lorsque Donald Trump a donné d'une certaine manière son feu vert à la Turquie, autre pays membre de l'OTAN, pour envahir le nord de la Syrie et attaquer, détruire nos alliés kurdes. Ça, je pense qu'il n'a toujours pas digéré. Il y a un sommet de l'OTAN dans moins d'un mois à Londres et donc d'une certaine manière, il prépare un peu le terrain.
En critiquant l'OTAN, Emmanuel Macron, en creux, essaie-t-il de promouvoir son idée de défense européenne?
européenne.
Alors je ne crois pas du tout que ça fasse progresser l'idée de défense européenne. Déjà à la fin du mois d'août, il avait surpris, et souvent désagréablement surpris, l'Allemagne et beaucoup de pays en Europe de l'Est qui ne savaient pas d'où sortait ce projet d'une architecture européenne de sécurité et de confiance avec la Russie. Vouloir construire l'Europe, c'est bien. Vouloir la construire tout seul ne semble pas très productif.
Des propos recueillis par Bertrand Galichet. Le haut commissaire aux retraites, Jean-Paul Delevoye, ne souhaite pas réserver le futur régime universel aux seuls nouveaux entrants sur le marché du travail. On appelle ça la clause du grand-père, un scénario qui voulait apaiser les syndicats. Il prévoit de manifester le 5 décembre prochain. Jean-Paul Delevoye se dit donc contre. Or, la porte-parole du gouvernement l'a ensuite répété hier, toutes les options restent bien sur la table. Recadrage du haut commissaire aux retraites en coulisses, l'unité de l'exécutif se fissure à propos de cette réforme des retraites. Là, en revanche, il n'y a plus d'options. Emmanuel Macron a tranché, le projet Europa City est abandonné. Cette gigantesque zone commerciale prévue dans le Val d'Oise était vivement contestée par les écologistes, mais aussi les agriculteurs et les petits commerçants du département. Les élus locaux, au contraire, défendaient un investissement de 3 milliards d'euros susceptible de créer sur place 10 000 emplois. Pour le chef de l'État, Europa City est maintenant daté, dépassé. Il promet un projet alternatif qu'il va confier au haut fonctionnaire Francis Roltangui, ancien directeur de l'atelier parisien d'urbanisme. Il était l'invité du journal de 22h sur France Culture hier soir.
Je pense que la décision qui vient d'être prise, elle est d'abord prise au nom du fait que ce projet représentait un symbole d'un système dont tout le monde voit qu'on est au bout. On parle tous de ce problème qu'ont tous les grands de la grande distribution, de modes de consommation à faire évoluer. Et donc peut-être que la grande surface lieu où on va se promener le week-end est peut-être un concept justement qui fait partie de ce système un peu dépassé. Mais en même temps, je pense que ça reflète que on ne peut pas tout justifier au nom de l'emploi. Il faut regarder vers l'avenir. C'est vraiment important parce qu'il faut que les emplois de demain soient vraiment les emplois de demain et non pas des emplois d'hier. On parlait justement des circuits courts de distribution, tout ce qui peut se faire autour d'éléments nouveaux comme il en sort aujourd'hui avec les révolutions techniques qui sont en cours. Je crois qu'il faut regarder devant et regarder quelle peut être la part qu'on peut, au travers de cette vaste zone, inventer pour demain, tout en étant très soucieux, effectivement, des problèmes sociaux qui se posent, et notamment dans ce secteur de l'Est du Val d'Oise.
C'était Francis Roltangui au micro de Stanislas Vazak. Plus de 1600 migrants ont été évacués dans le calme hier matin de deux importants campements du nord-est parisien. L'opération a vidé la moitié de ces camps insalubres de la capitale. D'autres évacuations auront lieu dans le mois qui vient à Grande-Synthe, Calais et Nantes. Voilà ce que dit le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner. Le calcul des APL va changer à partir du 1er janvier prochain. Les caisses d'allocations familiales commencent d'ailleurs à envoyer des lettres pour l'expliquer aux 6,5 millions de bénéficiaires. Le calcul de ces APL, ces aides personnalisées au logement, ne se fera plus sur la base des revenus perçus deux années plus tôt, mais elles seront désormais réévaluées chaque trimestre en tenant compte des revenus des 12 mois précédents, Hélène Philly.
C'est une réforme juste pour le ministre du Logement. Chacun aura ce dont il a besoin au moment où il en a besoin. Une perte de revenus sera prise en compte beaucoup plus vite. À l'inverse, un étudiant qui gardait son allocation un moment après son entrée dans la vie active verra désormais son APL baisser dès le troisième salaire. Un chiffre fait tout de même dire au président de l'association de consommateurs CLCV, Jean-Yves Manot, qu'il y aura plus de perdants que de gagnants.
L'État en attend 1,4 milliard d'économies sur le budget des APL pour l'année 2020. Il y a donc plus de perdants que de gagnants. On cible toujours le même public de cette petite couche moyenne qui fait des efforts. Eh bien, on va encore leur enlever 10, 15, 20 ou 30 euros par mois parce qu'ils auront éventuellement un gain supplémentaire relativement limité par rapport à l'activité professionnelle.
Selon les estimations de la Caisse nationale des allocations familiales, 1 200 000 personnes devraient voir le montant de leur APL baisser et 600 000 ne toucheront plus rien. Ce n'est pas le résultat de la réforme, mais une conséquence de la reprise économique, juge le ministère. Plus de travail, une situation financière qui s'améliore, donc moins d'aide. Une exception est faite pour les étudiants. Le montant de leur APL ne baissera pas, même s'ils travaillent pour payer leurs études.
Le temps sera agité de la Bourgogne jusqu'au Midi-Pyrénées ainsi qu'en Corse ce vendredi. Ailleurs, les éclaircies réussiront à se faire une petite place. Et ce matin, comptez 8 degrés à Strasbourg et Paris, 9 degrés à Nantes et Lille, 11 à La Rochelle et Lyon, 15 degrés dans la matinée à Nice.